franceinter.fr.
Chaque film est un voyage dans l'imaginaire qui transcende les frontières des hommes et les fesses de Brigitte Bardot.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Change de code.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Que dire de nouveau sur ce grand festival qui, depuis 70 mois de mai, agite la planète cinéma, qu'il propose toujours des films à tous les étages, des stars sur les marches, des deals, quelques polémiques, cette année elle s'appelle Netflix, et de l'attente, beaucoup, de l'espérance, l'espérance d'un grand choc, un film qui réveillerait enfin la critique et les festivaliers, il n'est pas encore arrivé. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue sur les marches rouges et bienvenue à toutes et à tous.
En direct donc du 70e Festival de Cannes. Cette année, la palme remise par le président Almodovar sera recouverte de 167 diamants. Sera-t-elle plus belle? Pour l'instant, on la cherche, on l'espère. En attendant, voici quelques pépites. Nos invités, Mathieu Amalric et Jeanne Balibar, nous les retrouverons tout à l'heure. Ils signent Barbara, ce biopic si original qui ouvrait jeudi la section Un certain regard. Le grand cinéaste russe Andrei Diaghintsev en compétition avec Faute d'amour, un constat terrible sur le couple et la Russie. Werner Herzog qui recevait, lui, le Carrosse d'or à la quinzaine des réalisateurs où tout a commencé pour lui. Et pour conclure, Juliette Binoche, elle nous rejoindra, elle est au cœur de ce film de Claire Denis, Un beau soleil intérieur. Mais c'est avec elle que nous ouvrons cette heure, deux jeunes actrices de remarquable présence. Bonjour Esther Garel.
Bonjour.
Et bienvenue Louise Chevillotte.
Bonjour.
Toutes les deux à l'affiche de L'amant d'un jour de Philippe Garel, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. L'amant d'un jour, c'est l'histoire d'un père, Eric Caravaca, et de sa fille de 23 ans. C'est vous Esther Garel. Elle rentre un jour à la maison parce qu'elle vient d'être quittée et découvre la nouvelle compagne de son père. C'est vous Louise Chevillotte, qui elle a aussi 23 ans et qui vit avec lui. On écoute un petit morceau de la bande-annonce.
Papa, c'est quoi la fidélité?
Certains sont fidèles à des choses qui n'ont aucune importance pour d'autres.
Oui, mais par exemple?
Parce que tu sais qu'une femme qui aime pas son corps peut pas être un bon coup.
Ah non, tu m'apprends des choses.
Ça fait combien de temps que t'es avec mon père?
Ça fait 3 mois.
Ça te gêne?
De quoi?
Je sais pas qu'on a le même âge, toi et moi.
Oui, je crois bien que je l'aime.
Et tu l'aimes pour ça? Parce qu'elle a un grain.
Les hommes, ils trompent sans préavis et ça les dérange absolument pas. Mais il y a un truc qu'ils supportent pas, c'est que les femmes fassent pareil. Donc au final, il n'y a qu'une solution, c'est de faire pareil.
J'ai été comme toi longtemps. Fais souffrir des femmes qui méritaient pas ça.
Va falloir que je fasse gaffe.
Je te le conseille.
Ces beaux dialogues de l'amant d'un jour ont été longuement préparés. Puisque le film, en fait, s'est joué un an avant, Louise et Esther, vous avez répété tous les samedis pendant un an.
Absolument.
Comment ça se passe alors?
Alors, ce qui se passe, c'est que Philippe, il veut rencontrer...
Vous appelez votre père Philippe alors?
Ici, oui, je vais l'appeler Philippe.
C'est plus simple.
Oui. Philippe, il veut rencontrer les comédiens en vrai, enfin, c'est-à-dire autour d'un café et une table. Il a besoin de rencontrer les comédiens ensemble pour faire des associations, pour créer des dessins particuliers par rapport à l'histoire qu'il a envie de raconter. Mmh. Et suite à ça, assez rapidement finalement, parce que le scénario à ce moment-là est déjà fait, mmh, presque sur sa fin, on se retrouve tous les samedis à une table avec tous les comédiens, du premier rôle jusqu'au dernier rôle. Quand les gens sont disponibles, ils viennent au maximum. Et on file tout le scénario. C'est-à-dire que on fait chaque séquence une fois, dans l'ordre, le plus possible, chaque semaine. Et de manière très douce. Et dans un deuxième temps, voilà, arrive le tournage qui est très resserré sur 4 semaines. Comme le résultat de tout ce temps passé ensemble, on le contracte en une prise. Et ça, c'est la base du travail de Philippe.
Et quand arrive Louise Chevillotte?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, quand Louise arrive...
Choisie par vous, dit votre père.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc rencontré une dizaine de filles dans ce même café avec Philippe. Et moi, à ce moment-là, comme je suis jeune et que j'ai passé des castings, je sais pas ce que ça veut dire finalement que de faire passer une audition, parce que il m'a mis à ce rôle-là à ce moment-là, Philippe. Et ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que quand Louise est arrivée, pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire que le dessin que notre rencontre a créé était exactement au bon endroit de liste que des deux personnages, c'est-à-dire que ça, le fait qu'elle ait 21 ans, que j'en ai 26, qu'elle fasse plus grande, que moi je fasse un peu plus jeune, crée une espèce de trouble qui, à mon avis, était exactement voilà le point, le bon détail, à mon
la
avis.
Bonne mesure.
La Louis,
bonne mesure.
Louis Chevillotte, vous rencontrez ce grand cinéaste qui vous demande une seule prise à chaque fois, puisque il y a tellement de préparation. D'abord, ça doit être extrêmement frustrant, non?
Alors non, parce que tout le travail de préparation, on parle d'Esther pendant les 9 mois, en fait, on travaille en une prise. C'est-à-dire que la scène qu'on va répéter, on va la faire une fois, grand maximum deux. Il va donner des enjeux, nous faire prendre en charge la logique, qu'aucune phrase soit mise, passée par-dessus la jambe ou quoi.
En fait, vous les avez tellement par cœur que vous les oubliez, ces dialogues, c'est ça l'idée?
C'est exactement son objectif, ouais. Voilà. Et du coup, moi c'est très bizarre, j'avais jamais fait de cinéma avant, et hier je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que je vais arriver à tourner en deux prises maintenant? Parce que...
Voire 3, voire 4, voire 10.
Voire 4, voire 8, voire 9, voire 10. Hein, oui. Parce qu'en fait, il nous a tellement mis en condition pour que ça soit la première, avec les battements du cœur... la grâce, l'erreur, l'échec, la faille, enfin tout ce qui fait la vie en fait, dans sa fausseté et dans sa beauté, et ben j'ai l'impression que j'ai tout cramé après la première. Mais bon, ça, après c'est un travail, mais non, ça a été frustrant parfois quand on se sent en dessous du niveau de la répétition. Là c'est très difficile. Avec Esther, on s'est dit que c'était un long processus d'humilité. Oui, en fait, en plus il regarde pas les prises, il les écoute, et donc du coup nous quand on est convaincu qu'on est un peu en dessous, on va lui dire, bon, allez, comment ça se passe, Philippe, on va en faire une petite. Et généralement, il dit, ça va.
Esther, c'était évident pour votre père que vous soyez dans le cadre.
Alors ça, on n'en a jamais discuté ensemble. Ça, c'est une chose qu'il dit, donc c'est très difficile pour moi de répéter, parce que je l'ai lu comme vous, en fait. On n'en a jamais parlé. On aime travailler ensemble, on se le dit, parce qu'en arrivant en répète, on est trop contents de se voir. En partant, on se dit qu'on est très contents de travailler ensemble pour se voir aussi. C'est comme, c'est ça, il dit que c'est aussi l'occasion de voir sa fille, et moi, c'est l'occasion de voir mon père.
Louis Chevillotte, comment il vous a présenté cette histoire à toutes les deux? Comme une rivalité de femmes, une amitié qui se transforme en rivalité inconsciente.
Alors l'amitié, il en a beaucoup parlé au début, mais c'était pas le centre du film. Le centre du film pour lui, c'était, je crois que je peux le dire, le film s'appelait Les Draps de l'Aube au début. Donc c'était l'histoire de cette femme, le personnage d'Ariane, donc le personnage que je joue, et toute la complexité qu'elle amène au sein de cette famille. Et puis au fur et à mesure des répétitions, c'est l'histoire d'amitié. On s'est rendu compte qu'est devenu le centre du scénario. Et ça, on n'en avait pas forcément conscience, ni lui ni nous. Et c'était intéressant parce que en même temps que Esther et moi nous connaissions de mieux en mieux, le scénario se recentrait sur ces enjeux-là. Et le film m'a présenté le personnage en parlant de la nymphomanie. Donc moi j'ai.
Vous qui espériez ne pas faire une scène de nu, vous en faites.
J'espérais rien.
Vous disiez chez Garrel au moins.
Oui, parce que c'est la première fois qu'il filme autant des corps nus.
Moi, en allant chez Garrel, le moindre de ses films, la caméra se détourne quand un couple va faire la
nuit. C'est ça, oui.
Et puis c'est parfait, c'est génial.
Et bingo cette fois.
Eh ben je sais pas qui lui a dit, mais quelqu'un lui a dit, écoute Philippe, tu es un peu trop chaste. Et le lendemain il est venu me voir en me disant, oui il a raison. Merde.
Non, c'est très beau parce qu'il dit lui-même, mais enfin les peintres peignent en permanence des personnages nus, donc pourquoi moi cinéaste je ne le ferais pas.
Mais bien sûr, et je trouve ça assez beau quand il parle du mouvement et de la peinture en mouvement, et c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Il y a une extrême pudeur. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'être un modèle dans une classe des beaux-arts. Où je me suis jamais sentie regardée. Il y avait toujours un filtre, un cadre entre lui et moi. Et c'était très agréable. Parce que du coup, ce qui était passionnant, c'est que les scènes de nudité, les scènes physiques, je connaissais tellement bien le scénario qu'elles avaient un sens dramaturgique pour moi. Et je pouvais pas concevoir le film sans.
Et dernière question avant de vous libérer. Est-ce que le film que vous avez découvert ressemble au travail toutes les deux que vous avez accompli?
Moi, je trouve que le travail de François Didier, le monteur, est vraiment exceptionnel. Et moi, je considère que il y a eu comme un premier film avec le scénario, un deuxième au tournage, et vraiment un troisième film avec son travail.
Merci à toutes les deux. Louis Chevillotte, Esther Garel, à l'affiche de L'Amant d'un jour. Il était présenté à la quinzaine des rédacteurs et sortira le 31 mai prochain.
Allez le voir.
En attendant de retrouver Jeanne Balibar et Mathieu Amalric, une escale en Russie. La Russie du cinéaste Andrei Zaginsev, auteur notamment de ce magnifique film qui était Le Retour, d'Elena ou de Léviathan dans son nouveau film Faute d'amour. C'est un couple en train de se séparer qui l'ausculte. Un couple qui se dit des horreurs, se déchire, sans se préoccuper du sort de leur jeune fils Alyosha, qui va un jour disparaître et réveiller peut-être leur conscience. Un film sur le chacun pour soi, un film sur la famille, la fin de la famille, et en même temps un portrait politique de la Russie d'aujourd'hui, où l'État oublie de plus en plus l'individu. Voici Andrei Zaginsev, traduit par le grand Joël Chaperon.
Алёша пропал. Чё, ну придумали что, да? Ты же сказала, вы разводитесь. Чё, выпивку свою решил на меня что-то повесить, да? Вот это вот видела?
Как же так вышло, что ты пел мне про любовь, а в итоге только боль и разочарование. Непроглядная полная говна шопа.
Bonjour, André.
Bonjour, bonjour.
Les parents font appel à une association caritative pour retrouver leur enfant qui va prendre le rôle de la police. Ça veut dire l'État russe démissionne ?
Oui, absolument.
Aujourd'hui, le modèle de l'État russe est un modèle qui, comme on l'a connu il y a encore quelques décennies, est un modèle dans lequel l'individu est totalement inutile. À partir du moment où l'individu ne compte pas, l'individu n'est pas pris en considération, c'est la société qui doit s'organiser. Et la société, moi c'est ce que je vois donc autour de moi, je vois qu'elle s'organise indépendamment de l'État. Aujourd'hui, il y a environ 15 millions d'habitants à Moscou et il y a, m'a-t-on dit, à peu près 1000 bénévoles volontaires qui s'occupent de rechercher les personnes disparues. Ce sont des agents qui décident véritablement de se substituer à l'État pour aller faire ce que ne fait pas l'État, c'est-à-dire aller rechercher les personnes disparues. Et le leitmotiv, c'est surtout de ne pas gagner d'argent là-dessus, c'est-à-dire que c'est vraiment non seulement des bénévoles, c'est pas dans un but commercial, c'est-à-dire que même quand ils retrouvent la personne disparue et qu'ils la rendent aux parents, quand il s'agit d'un enfant, les parents, dans ce cas-là, seraient prêts à vous donner, évidemment, et tout vous léguer. Ils ne veulent absolument rien. Les seuls cadeaux qu'ils acceptent, c'est des cadeaux qui les aident dans leur technique. Donc, ça peut être des talkie-walkie, ça peut être toutes les choses qui peuvent les aider à aller chercher et à aller retrouver les personnes qui ont disparu. Mais ils refusent absolument tout cadeau en argent. Et c'est une société, c'est une organisation qui est totalement indépendante, qui est née de la spontanéité et totalement indépendante de toute implication dans l'État, au point même qu'ils ne sont pas enregistré en tant que tel auprès des services de l'État.
Donc vous allez montrer à Cannes, finalement, au monde entier, que l'État russe démissionne.
Avec quand même l'idée que, c'est ce que montrent toutes les images d'actualité à la télévision, qu'il ne démissionne pas sur le terrain de la guerre, et singulièrement de la guerre, la guerre intérieure avec des minorités ou des pays autour.
Oui, oui.
À la conférence de presse, vous savez, j'ai un journaliste ukrainien qui, je pense, moi, se retrouve avec des œillères et qui m'a posé une question sur la longueur des passages, justement, de la télévision russe que je montre à la fin du film. Et il estimait que la longueur de ces passages sur l'écran du film, sur l'écran de cinéma, montrait la propagande russe. Or, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer, justement, la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec, justement, cette propagande qui est à la télévision, c'est pas une propagande que je fais, c'est une propagande dans laquelle vivent les personnages. Or, ce que je trouve être intéressant, c'est justement de voir en contrepartie, en contrepoint, les personnages totalement inertes face à cette propagande qui leur est totalement inculquée, insufflée. L'inertie, l'indifférence, l'apathie, la non-intégration dans le processus de développement est quelque chose qui aujourd'hui nous est courant en Russie. Et on subit ça. Or, je pense qu'il y a justement une différence majeure dans l'histoire récente de la Russie. C'est que en 2011-2012, lorsque justement commence l'action du film, quand le petit garçon disparaît, on est dans une période où on est encore dans une période de protestation, si vous vous souvenez, de protestation et donc d'espoir, s'il y a une possibilité de changement. Et en 2015, on est, pour le coup, dans une société qui aujourd'hui voit les vis se resserrer autour d'elle. Et donc, on est en train de traverser une période hivernale qui a commencé en 2015. C'est la période hivernale de la politique russe.
Voilà, Faute d'amour d'Andrei Zaginsev, il sortira le 20 septembre prochain. Lui ouvrait une autre compétition, celle d'un certain regard avec Barbara. Mathieu Amalric aime depuis longtemps l'artiste, la femme, la chanteuse, et plutôt que de construire un biopic classique et poussiéreux, il s'est imaginé, lui, Amalric, en train de réaliser un film sur elle, c'est le film dans le film, et pour incarner cette femme fantasque, la seule, l'unique, Jeanne Balibar. La ressemblance est troublante, et troublante aussi ce mélange d'archives et de tournage réel, une délicieuse et vénéneuse alchimie. Avant d'accueillir tout de suite Jeanne Balibar et Mathieu Amalric, un extrait de cette œuvre si originale, Barbara.
Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur, moins fort, calmez donc cette fièvre, oui j'écoute. Vous dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux sans tout.
Bonjour. Vos livres, s'il vous plaît.
Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous?
C'est pareil.
C'est pareil.
Oui, un jour, vous m'avez chuchoté à l'oreille, et puis à 16 ans, mais la vie est modifiée. Fais de ta vie ce que tu veux, mon chéri. C'était une berceuse. Non, coupe, coupe, coupe. C'est une berceuse que ma mère ne chantait pas, ou une amie, ou une maîtresse, ou je... Qui prend sur ses épaules toute la tristesse qui s'est évaporée. Vouloir recommencer, ne pas perdre espoir, tout ça, c'est grâce à ses chansons.
Bonjour, Brigitte.
Bonjour, Jeanne Balibar.
Bonjour.
Bonjour Mathieu Amalric.
Bonjour.
Je pense que vous avez inventé un nouveau genre. On peut même pas dire biopic. On peut même pas dire impressionniste. Vous rentrez dans la vie de quelqu'un en sachant énormément de choses sur elle, mais sans nous le montrer et en choisissant quelques épisodes de la vie de cette femme.
C'était, oui, la collision de deux genres pour essayer. D'éviter, de désamorcer des pièges propres à chacun des genres. Donc, vous en mélangez deux et peut-être ils vont s'annuler. Et du coup, par exemple, le biopic peut avoir tendance à vouloir donner un sens à une vie, après coup.
Ou tout couvrir.
Ou tout couvrir. Ouais. Et là, si on se disait peut-être c'est un film sur une femme actrice aujourd'hui qui doit être possédée, incarnée, réincarnée, on peut trouver tous les mots, un mythe, une voix, Barbara, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui, voilà. Et c'est pas si possible parce que c'est Jeanne.
Vous, Jeanne Balibar, on vous a proposé plusieurs fois ce rôle de Barbara, vous l'avez toujours refusé, et qu'est-ce que ce projet avait de particulier pour l'accepter?
En fait, j'avais toujours refusé, sauf un moment où un cinéaste que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé aussi, qui s'appelle Pierre Léon, m'avait proposé un scénario qui était très beau, mais qui n'a jamais trouvé de financement, pour toutes sortes de raisons dont on parlera pas ici. Et on s'était toujours dit avec Pierre et Renaud Legrand, qui avait écrit le scénario avec lui, que ça se représenterait forcément, cette proposition de Barbara, puisqu'elle se proposait tout le temps depuis... mais que à ce moment-là, c'était bon. Si on n'avait pas réussi à faire ce film-là, s'il y en avait un autre beau projet qui se présentait, je le ferais. Et à la suite de la montée des marches pour Grâce de Monaco, aussi étrange que ça puisse paraître, Patrick Godot m'avait contacté en me disant « J'aimerais produire avec vous un film sur Barbara. Est-ce que vous avez une idée de réalisateur ?» Il se trouve qu'à ce moment-là, Mathieu Amalric, avec qui, par ailleurs, dans une autre vie, j'ai fait deux enfants, etc., etc. Et moi, nous étions très fâchés pour une histoire de bulletin scolaire. Justement, on était vraiment...
conception opposée d'éducation.
Même plus à tu, oui. Et à toi, mais vraiment à tu. Ouais. Et donc, j'ai proposé tout le monde, sauf Mathieu. À ce moment-là, ce projet s'est à nouveau enlisé, ce qui semblait devoir être son destin jusqu'à ce qu'il arrive. Et là, bon, ça a traîné. Puis à un moment, quelques mois plus tard, ma meilleure amie m'a dit, mais ce projet de Barbara, où ça en est? Je dis, bah, nulle part. Elle me dit, mais Mathieu, pourquoi... Ah, mais c'est vrai, Mathieu! On s'était réconcilié déjà la semaine d'après.
Une autre amitié meilleure.
Voilà. Non, enfin, moi, je suis plus juste. Vous savez, toute une vie, ce compagnonnage à la fois à tous les niveaux et notamment cinématographique, ça se gère de manière bon au jour le jour. Et donc voilà, du coup je l'ai appelé et puis lui, il a sauté sur l'occasion. Alors après, bon, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un truc que je voudrais bien que tu m'expliques, Mathieu Amalric.
Ouais, dis-moi.
Est-ce que à ce moment-là, t'avais déjà lu, parce que ça va revenir forcément, le scénario d'Arnaud?
Pas du tout.
Parce que il y a quand même des choses étranges de similitudes, mais ça c'est lié aussi à leur partenariat à eux.
Vous parlez d'Arnaud Desplechin, bien sûr.
Desplechin, ouais. Amalric, qui est une sorte de chose mi-merveilleuse, mi-perverse, que j'observe en témoin plus ou moins rapproché depuis 20 ans. Et donc ils se sont aussi rencontrés là-dessus, mais... Vous m'arrêtez si je parle trop.
Non, allez-y.
Parce que ce que moi j'ai trouvé marrant dans le film de Desplechin, c'est que Mathieu, depuis le début du projet Barbara, a dit un biopic, c'est quoi? C'est se poser la question de ce que c'est qu'une réincarnation. Qu'est-ce que c'est que la permanence de la présence de quelqu'un qui au fond est devenu une divinité, que ce soit je sais pas quoi, Claude François ou Jeanne d'Arc, ouais. Pour nous tous, et comment on le fait ressurgir revivre ce fantôme, mais ce fantôme de quelque chose de divin quand même, de devenu divin. Et il m'a dit, je vous le jure, n'ayant pas lu le scénario d'Arnaud à ce moment-là, tout biopic au fond c'est Vertigo. C'est-à-dire que c'est, on prend une femme morte, divinisée, et on voit comment on peut la reconstruire. Alors dans son cas, évidemment, c'est particulièrement marrant, parce que la femme morte en question, c'est Barbara d'une part, mais c'est aussi la femme qu'il avait épousée il y a 20 ans, et qui n'existe plus, car nous avons tous changé. Bon, je m'arrête.
On sent qu'il n'y a pas de pression pour vous sur le fait de... Parce que c'est quand même quelque chose d'incarner cette femme-là. On sent que vous la réinventez vous-même.
Oui, mais parce que c'est ça aussi, peut-être, si vous voulez... C'est vrai, je dis dans le dossier de presse, j'ai découvert en travaillant sur elle que nous n'avions aucun point commun.
Ouais.
Mais alors, zéro. Pas même la voix dont tout le monde va vous dire, c'est-à-dire que elle, c'est un soprano qui baisse sa voix, moi je suis une mezzo qui la monte pour faire les notes, et d'ailleurs des fois je les atteins pas, qu'elle fait, c'est quelqu'un de très très solitaire, moi pas, enfin bon, tout ça, des différences vraiment énormes, mais du coup ça ouvre beaucoup de jeux. Par contre, ce qu'il y a, je crois, qui est commun, c'est cette volonté de, comme on dit en psychanalyse, ne pas en rabattre sur son désir, ne pas en rabattre sur sa fantaisie. Parce que ça, quand même, c'est une chose, on n'a qu'une vie, faut en profiter. Et être au-delà de la pression. Vous savez, la pression... moi, quand je suis rentrée en scène, j'ai eu très très peur la première fois de ma vie. Et je me suis dit, cette peur-là, plus jamais, c'est trop humiliant. Et c'est pareil dans la vie. Et peut-être ça, c'est une chose qu'on peut avoir en commun, parce que quand il y a eu des peurs... Et les siennes, à elles, ont sans doute été beaucoup plus grandes. Les Allemands, le père, etc. Mais on peut trouver des analogies. Il y a quelque chose... Cette peur-là, elle est là, elle existe, mais plus jamais. Plus jamais cette humiliation d'être dominée par la peur. Ça, par exemple, c'est un point commun.
C'est un point commun. C'est un point commun.
Mais c'est plus une analogie. Parce que on peut jamais prétendre connaître, et il faut pas prétendre connaître. C'est pour ça que c'est pas la peine de se mettre la pression. Parce que, en fait, la pression, c'est de la prétention. Travailler minute par minute sur le tournage, techniquement, comprendre, là il faut faire ça, là il faut écouter ce qu'on ressent, là il faut s'approcher de la caméra, parfois c'est technique, parfois c'est psychologique, parfois c'est fantasque, parfois c'est profond, et ben c'est la modestie du travail d'artisan de faire un film ou de faire une chanson.
Mais il y a un mélange de mélancolie et d'humour chez elle, non, Jeanne Balibar?
Moi, ce que j'ai découvert en travaillant les chansons, c'est que si on commence comme ça, on se met au piano, on plaque les accords et on dit les mots, en fait, on ne peut pas, parce qu'on pleure trop. C'est impossible. Il faut donc trouver cet endroit qu'elle a trouvé, elle, où on est au-delà des larmes et où on peut arriver à dans une légèreté comme ça. C'est le chemin qu'elle décrit dans la chanson « Le mal de vivre ». Le mal de vivre et puis... la joie de vivre. Il faut trouver ce chemin ou ce dialogue entre ces deux choses-là et l'endroit où on peut les tenir toutes les deux. En effet, la mélancolie est l'absolue jouissance. Comme ce costume noir, ce piano noir, bah c'est à la fois un piano, un cercueil,
un amant,
deuil,
un amant.
Et un corps.
D'accord.
Et un corps, et du corps, et le noir du désir qui fait vivre.
Et vous l'avez énormément regardé, j'imagine.
Non, pas tant que ça.
Ah, pas tant que ça?
Non, moi je suis d'avis que pour les personnages qui ont déjà existé, j'avais déjà fait ça quand j'avais fait Sagan avec Peggy Roche, il faut prendre seulement deux, trois petites choses, mais savoir lesquelles vont vous parler et à partir desquelles on va déployer un fil.
En l'occurrence, c'était quoi?
En l'occurrence, c'était ce regard qu'elle a intérieur, et d'ailleurs, c'était peut-être un pur fantasme de ma part, parce que je vais vous dire un truc. Une fois, on a tourné et la caméra est passée devant moi dans le piano, une scène qui n'a pas été gardée finalement, et je me suis aperçue qu'en fait, on se voit dans le filtre de la caméra. Et moi, j'avais tout construit, toute mon interprétation sur le fait que ce regard était tellement intérieur qu'elle regardait à l'intérieur d'elle. Puis d'un coup, je me suis dit, mais non, en réalité, c'est elle-même qu'elle regarde. C'est-à-dire son image dans le miroir que lui présente la caméra. Mais peut-être que c'est la même chose.
Est-ce que vous pouvez me dire le titre du film? Je voudrais l'entendre dans votre voix.
Barbara.
Il sortira le 6 septembre et il était en ouverture d'un certain regard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Avant de retrouver Juliette Binoche, Laurent, on va quand même un peu parler des films qui nous sont proposés.
Et on va pas se priver.
À commencer par Les Fantômes d'Ismaël et cette fameuse Director's Cut, la version longue, celle chérie par son réalisateur et que les festivaliers ici n'ont pas pu voir.
Oui, alors on a quelques scrupules en même temps à en parler parce que, hélas, pour l'instant, elle n'est pas très, très diffusée dans les salles. C'est majoritairement la version qu'on a vue ici à Cannes, moi j'ai vu aussi la version longue. Mais c'est dommage parce que, effectivement, c'est la version sanctifiée par son auteur, c'est quand même important l'avis de l'auteur sur ce qu'il fait, et que pour avoir pu comparer les deux, il est clair, dans mon esprit en tous les cas, que c'est la version longue qu'il faudrait impérativement voir pour que le film prenne tout son équilibre, toute son harmonie et toute sa beauté en quelque sorte.
Au chapitre des déceptions dans cette compétition, c'est Wonderstruck de Todd Haynes, oui le grand Todd Haynes, qui signe cette histoire très mièvre de deux enfants sourds à deux époques différentes à New York. Jamais un récit n'avait été autant surligné par quelqu'un qui d'habitude nous avait tant surpris.
Oui, ça m'a fait un peu penser, vous savez, à la phrase terrible de Jean Cocteau qui disait à propos de Minou Drouet, apprenti poète, tous les enfants sont poètes sauf Minou Drouet. Eh bien là, on a vraiment deux acteurs enfants qui sont terribles, quoi. C'est-à-dire, ils ont des tics en permanence. Alors, c'est pas leur faute, hein, c'est la faute de Todd Haynes, clairement, parce que eux, ils sont pour pas grand-chose. On les a recrutés, il y a eu un casting, ils jouent. Mais vraiment, c'est un ramassis de clichés sur un film de formation à travers deux parcours d'enfants avec deux temporalités différentes. Vraiment, ça manque absolument et de charme et de mystère, comme souvent Todd Haynes pourtant sait en instiller dans ses films.
Autre déception plus légère, c'est le Bong Joon-ho, alors qui avait signé notamment Memories of Murder, bien sûr, et puis The Host.
Des chefs-d'œuvre.
Là, c'est Okja, donc le premier film Netflix de cette compétition. Logo Netflix sifflé dans la grande salle lumière. Okja, donc ce super cochon transgénique élevé pour pallier l'insuffisance agroalimentaire du monde, mais surtout pour engraisser une multinationale américaine. Okja, l'ami d'une jeune coréenne élevée avec lui et qu'on va lui retirer pour le découper en tranches. Fable écolo, satire bien lourde du capitalisme incarné notamment par Tilda Swinton et Jake Gyllenhaal, les deux énormes défauts de ce film. Ils n'ont jamais autant surjoué, c'est complètement fou. Comparé à la sobriété de jeu du cochon géant et de cette petite fille, les deux véritables héros de ce film et qui nous offre les plus belles scènes.
C'est ça, c'est-à-dire que quand on est chez Miyazaki, ça va. C'est-à-dire que quand on est en Corée même, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux géographies du film, il y a le film coréen et le film qui est censé se passer aux États-Unis. Et là, tous des règles, comme vous l'avez dit, ça va très mal, et ça ne va plus du tout ce cinéma-là. Et c'est vraiment dommage, parce que Bong Joon-ho est un auteur, c'est une évidence absolue. Et là, il se perd dans les méandres, effectivement, de sa caricature de ce qu'il pense être les États-Unis. Notamment.
Alors que tout est si beau et si calme en Corée dans ces images coréennes, c'est ça qui est fou de montagne.
Oui, c'est vraiment dommage.
Enfin, un film que vous avez beaucoup aimé, Laurent, c'est le film d'Agnès Varda et de J.R., Visage, Village.
Ah, quelle merveille que cette vieille tante fringante du cinéma français, après Godard, après tous les autres qui sont nos vieux tontons flingueurs. Elle flingue à tout va, mais elle flingue avec une émotion incroyable, aidée avec son acolyte J.R., qui passe presque inaperçu au regard du charme incroyable de cette dame qui piste jusqu'à la fin de son film, et je n'en dirai pas plus, Jean-Luc Godard, mais là, vraiment, à ce moment-là, sourd une incroyable émotion.
Avant d'accueillir Juliette Binoche, voici ce petit sonore.
J'aurais pu renoncer à monter sur scène dans cet état, mais je voulais surtout pas rater ça, parce que cette année, c'est historique. 12 films en compétition officielle sont réalisés par des femmes. 12, la moitié de la sélection.
Quelle joie!
Réjouissons-nous que de plus en plus de femmes fassent des films, produisent des films, écrivent des films, qu'elles participent enfin au grand récit collectif qui s'écrit ici. On a besoin de leurs regards, de leurs histoires, de leurs vérités.
Ça, c'est de la science-fiction. 12 femmes en compétition. Bonjour Juliette Binoche.
Bonjour.
C'était extrait de la série 10%. Dans la vraie vie, il y a plus de femmes ministres que de réalisatrices en compétition. Elles sont 3. Il y a Noémie Kawase, Sofia Coppola, Éline Ramsay. Et vous aussi, vous le déplorez.
Je déplore le fait qu'il n'y ait pas tellement de...
Ouais.
Oui, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Hein.
Oui.
C'est vrai que peut-être que dans la sélection, il faudrait peut-être mettre plus de femmes. Je ne sais pas.
Est-ce que vous avez tourné avec beaucoup de femmes, vous?
J'ai tourné
pas énormément.
Quand même. Dernièrement, j'ai tourné avec une dizaine de réalisatrices, je pense.
Ouais.
Mais c'est une exception française, il faut quand même le dire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre pays au monde où il y a quand même, malgré tout, autant de réalisatrices femmes. Hein.
Bon, voilà. Mais elles viennent, hein. Vous en faites pas.
Ah, mais moi, je ne m'en fais pas.
Non,
bien sûr, mais en France. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, il faut chercher longtemps, hein, par 2 ou 3.
Oui, mais dans d'autres pays, enfin, il y a pas mal de femmes maintenant qui réalisent. Ouais.
C'est un film réalisé par une femme que vous présentez ici, Un beau soleil intérieur. De Claire Denis, coécrit avec Christine Angot, un film filmé par une autre femme, Agnès Godard, pour raconter l'histoire d'une femme. C'est vous à la recherche d'un absolu en amour, malgré les échecs sentimentaux qui jalonnent sa vie. Quel drôle de film totalement atypique. On écoute un extrait avec l'un de vos amants, Nicolas Duvauchel.
J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, ce que j'aime, c'est l'avant, tout ce qu'il y a avant. Non, il n'y a plus d'avant.
Peut-être pas. Et peut-être encore un avant. Avant la deuxième fois.
Ah oui. Bah, la première fois, ça s'est fait. Et donc, il y aurait un avant qui serait avant la deuxième fois, ça. Parce que oui, la première fois, c'est fait, on est d'accord. Ça, on n'y revient plus. Donc, il y aurait encore un avant après.
On se voit plus. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution.
Je suis solidaire.
Mais je pensais que tu voudrais qu'on se revoie quand même. Tu m'étonnes là dans ta réaction. Je pensais pas que ça te conviendrait.
C'est incroyable, toi, c'est pas vrai. Je te dis non, je suis solidaire.
Bon, bah très bien. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, non? Il n'y a pas d'autre solution.
Qu'est-ce qu'elle capte bien, Christine Angot, ces vérités qu'on ne peut pas toujours dire dans la vraie vie, Juliette Binoche.
Oui, c'est vrai, mais elle part de, je pense, de son expérience, parce que la vraie,
on le sent bien.
On le sent qu'il y a une expérience, une exploration d'être humain à travers l'amour. Mais c'est ça qui est merveilleux aussi, parce que de jouer quand il y a une vraie écriture qui a vécu, c'est, on le sent tout de suite, quoi. Ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus léger et les virages sont jouissifs, quoi, quand on passe d'une émotion à une autre. Il y en a plein dans le film comme ça.
Vous auriez pu être co-auteur du film, d'ailleurs, j'imagine, quelque part.
Vous savez, en tant qu'acteur, quelque part, on est co-auteur,
c'est ça.
Hein, parce qu'il faut bien l'incarner.
Peut-être un peu plus que d'autres fois.
Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire.
Non, parce qu'on croit que c'est improvisé, mais absolument pas. Non. Tout est absolument écrit, même les hésitations, les demi-mots, les quarts de mots, les trois quarts de mots.
Ouais, c'est.
Mais non, il y a une sorte d'alchimie qui s'est passée, je crois, entre Claire et Christine, déjà, où il y a eu vraiment cette fusion et cet accord intérieur, je pourrais dire. Et ensuite, avec Claire, comme c'est quelqu'un qui a une finesse d'esprit, une sensibilité, qui a une bienveillance profonde. Alors, elle peut s'inquiéter assez souvent, parce que ça la traverse et elle a absolument horreur de tout ce qui est négatif sur son plateau, parce que je crois qu'elle le vit, mais vraiment à 200 ou 300%. Et donc, j'ai compris avec elle qu'il fallait être le vent dans ses voiles, mais le vent donnant, quoi. Le vent amour, le vent total. Et c'est pour ça que je crois que ça s'est bien passé. Et aussi, parce que son regard fait que, c'est vrai que quand un metteur en scène, qu'il anticipe pas sur l'acteur, il attend avec une bienveillance profonde. À ce moment-là, un acteur, il peut faire des miracles. On a besoin de cette coopération. Mais je crois que pour essayer de répondre à la question, je crois que le pain, il est fait, bon, de farine, d'eau, de sel et d'un petit peu de levain. Et je crois que pour incarner et lever l'affaire, lever ces mots du script vers un possible, eh ben, l'acteur est là pour, voilà, l'élever.
Ils sont bien lâches, tous ces hommes, quand même.
Mais moi, je suis attachée à eux. Bah, c'est vrai que, il y a une certaine critique, mais à la fois, je crois pas que c'est dénué d'amour. Je crois que cette femme, bah, c'est-à-dire que mon personnage, le film montre la fin de la relation avec le banquier, donc là où elle en peut plus.
Un salaud.
Incarné par Xavier Beauvois, magnifiquement.
Un salaud, mais à la fois, elle l'aime. Elle arrive quand même à rester, quoi, ce qui est quand même insensé. Moi, je serais partie depuis longtemps. Donc, il y a une certaine patience.
Elle en a besoin.
Elle en a besoin.
Une patience à la jouissance, même, parce que c'est la scène
d'ouverture. Oui, parce que c'est ça, parce qu'elle a vécu la jouissance telle avec lui, qu'elle a envie peut-être de continuer un peu jusqu'au moment où ça marche plus du tout. Elle se sent totalement écrasée par sa lourdeur, si je puis dire. Ouais. Et après, il y a le début, on voit le début de la relation avec l'acteur, ou qui est hyper compliqué. Mais moi, j'en ai croisé plein des hommes comme ça. C'est quand même un point de vue de femme, mais je crois que les hommes peuvent s'y retrouver aussi beaucoup. Et les Isabelles hommes, il y en a plein aussi. Je veux dire, c'est pas juste, c'est pas un film sexiste du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un humour sur les relations qui sont pas simples à vivre, quoi, quand même.
Et quand votre personnage rencontre enfin un homme qui a l'air de recueillir toutes les qualités, il est critiqué par ses amis parce que c'est aussi la critique d'un milieu social, ce film. Intellectuel de gauche parisien, et vous vous retrouvez, on va écouter l'extrait, à déjeuner, j'adore cette scène, avec Bruno Podalydès qui vous pose des questions sur ce nouvel amant.
Et t'as revu le titre de la dernière fois ?
Ouais, on est rentrés à Paris ensemble. Voilà.
Et ?
Je suis rentrée avec lui et on s'est pas quitté.
Mais je suis jaloux. Et tu viens avec lui ?
Je le connais depuis 3 semaines. Nous sommes ensemble.
Et vous êtes ensemble ?
Oui.
Excuse-moi de te demander ça, mais pourquoi il est tombé amoureux de toi ?
Je sais pas. Faut pas moins le dire, non ?
Enfin, je comprends que lui soit tombé amoureux de toi, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est le contraire, je comprends pas.
Pourquoi ?
Enfin, excuse-moi, mais tu parles avec lui ?
Ah oui, beaucoup même.
Il comprend les enjeux de notre milieu.
Je sais pas, non. Qu'est-ce que ça fait ?
Rien. Pardon, d'accord. Hein. Mais alors, de quoi vous parlez ?
De plein de choses. En tout cas, on parle.
Vous disiez quoi, Gilles Binoche ?
C'est cruel, ouais. Mais c'est quand même cruel, mais à la fois, ça traduit une certaine vérité. Je crois que... Il y a des jalousies dans tous les milieux et celle-là, elle est bien vue quand même, je trouve.
Vous avez des sacrés partenaires, hein, Xavier Beauvois, donc Bruno Podalydès, Gérard Depardieu pour une séquence très surprenante à la fin, Alex Descasse, Laurent Gréville, qui était votre frère dans... Camille Claudel, 1900.
Non, c'était avec Isabelle Adjani.
Oula, j'ai confondu.
Je me suis trompé de Camille.
Et Philippe Catherine, avec lequel vous ne couchez jamais.
Ah non.
Non.
Non, c'est vrai.
Vous achetez du poisson avec lui.
Pardon ?
Vous achetez du poisson avec lui.
Voilà, c'est ça. Et il me tient la jambe.
Non, mais ce sont des présences tout de suite identifiables. C'est important, ça, pour nous, spectateurs. Non ?
Oui, elle va vraiment dans des univers différents et dans des êtres, dans des pensées différentes et c'est vrai moi je trouve qu'on parcourt cette femme, mais c'est des très beaux portraits d'hommes, je trouve. Parce que la façon dont Claire pose la caméra, il y a une insistance de chaque personne et on a le temps de les voir quand même. Je trouve que, enfin, et de femmes aussi. Enfin, Josiane, on la voit un petit peu moins peut-être.
Jeanne Balasco, oui.
Oui, voilà. Mais sinon, je trouve qu'il y a une... Elle a aimé décrire ces hommes, elle a aimé les voir, et à travers mon personnage.
Est-ce que c'est un film que vous auriez accepté de faire il y a 10 ans, ou que vous auriez eu envie de le faire il y a 10 ans ?
Bien sûr.
Oui, vraiment. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une liberté de plus en plus grande, quand même, que vous prenez avec vos personnages.
Fois, merci.
Mais donc, ça doit être un peu vrai.
Je sais pas comment je vais finir.
Ça doit être un peu vrai.
Je vais pouvoir avoir des ailes de chaque côté de mon corps, ça doit être pas mal.
Non, mais vous le sentez pas du tout ? cette dimension plus
mais
libre.
Cette dimension, elle est partagée dans le sens où quand on a un regard, on a quelqu'un comme Claire Denis, j'insiste un petit peu parce que c'est rare ces sensibilités-là, ces générosités-là. À ce moment-là, tout est beaucoup plus possible que quand on a quelqu'un qui a peur de pas avoir une certaine autorité ou peur de que le film aille pas dans ce sens-là. Il y a comme elle me laisse libre, mais avec cette espèce de par sa présence et par son esprit, elle accompagne quelqu'un, mais dans le silence. C'est très difficile à décrire des sensations de création interne qui se passe au moment du tournage.
Vous avez l'impression, c'est pas une mission, mais d'incarner les femmes, de représenter quelque chose, voyez, d'être un peu comme un modèle.
Non, pas tellement.
Pas tellement?
Non.
Quand on est spectateur.
Moi, je crois humain d'abord.
Ouais.
Humain, et c'est pour ça qu'Isabelle, pour moi, c'est pour être un homme aussi. Donc c'est l'humanité qui m'intéresse, c'est pas revendiquer des choses féministes ou ça non. Même si je pense qu'il y a des choses à changer par rapport aux femmes et que c'est important d'en parler, et comme on disait par rapport au festival et à la sélection, que les femmes soient présentes. Et moi je pense que notre film, il aurait pu être en compétition. À la fois, bon, moi j'ai pas été appelée ni Thierry ni parce que après c'est leur libre choix, mais je pense qu'il y a un manque à ce niveau-là, parce que d'accepter une femme, le féminin, d'accepter la différence, d'accepter c'est difficile pour les hommes, je crois, de descendre d'un certain orgueil, d'un certain de pouvoir, je dirais. Et le partager, ça va prendre du temps.
Vous avez été ici maîtresse de cérémonie, en compétition, prix d'interprétation, sur l'affiche. Vous avez pratiquement fait le tour, peut-être pas au jury.
Non, j'ai jamais été au jury.
Ça vous aimeriez ?
Pardon. Écoutez, je l'ai fait qu'une seule fois, c'était au Festival du Cabourg. Donc je me suis entraînée et ça s'est super bien passé. Je pense que je suis prête.
Et arrive à côté de vous Thomas Borez, qui sort de la projection, Thomas Borez de studio, qui sort de la projection de 120 battements par minute. Le film le plus attendu de cette compétition, signé Robin Campillo, et qui est censé fictionner les années ACT UP. Et c'est une palme annoncée. Alors, est-ce que c'est vraiment au niveau de cette palme
suspense
annoncée?
Ouais, il a été très, 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 très applaudi. C'est le plus applaudi jusqu'ici. Et à raison. C'est un film très, très émouvant. Là, même en vous parlant, je suis un peu ému. Oui, il y a deux minutes, j'avais encore les larmes aux yeux. Oui, c'est un film qui se passe dans les années, fin des années 80, début des années 90. On est sous les années Mitterrand et les années ACT UP, donc un mouvement activiste de lutte contre le sida, issu du mouvement homosexuel. Et donc là, on suit donc à Paris ce groupe. On part d'un groupe et puis très vite, on bascule vers des individualités. C'est très, très, très émouvant, très bien filmé. Au début, on a un peu peur. Il y a beaucoup de revendications. On va se dire, on va avoir une espèce d'exposé. De catalogue, et en fait pas du tout, on sent que tout ça, cette parole est là pour créer un rythme, pour créer du muscle, et du coup c'est un vrai film de cinéma, un traitement sur le son et la musique incroyable. C'est très émouvant mais jamais pathos. J'ai dit en arrivant que j'étais ému, c'était pour faire un peu mon malin, parce que c'est vrai qu'on l'est, mais c'est jamais pathos, parce que Robin Campillo sait faire. Eastern Boys, son précédent film, était un film très tendu aussi sur l'amour et tout ça. Et là, donc, c'est un film sur l'amour, sur le mouvement et surtout sur les années sida. Et comment on filme des corps à l'écran aussi, des ébats homosexuels vraiment magnifiques à l'écran. Voilà. Donc, c'est un film, pour l'instant, parfait, on va dire.
On va écouter la bande-annonce de ce film 120 battements par minute.
Melton Farm,
assassin! Mais ils sont fous, mais c'est quoi?
Assassin, t'as du sang sur les mains! Assassin, t'as du sang sur les mains!
C'est par où?
C'est tout droit, au fond du couloir! Melton Farm, assassin!
La voix qu'on entend, Thomas Borez, c'est celle de Adèle Haenel.
Oui, absolument, qui est très présente dans le film et en même temps pas, c'est-à-dire très présente parce que c'est une grande actrice et que donc dès qu'elle apparaît à l'image, on la voit. Mais je parlais d'un groupe. Et effectivement, c'est un groupe avec des petites individualités, mais c'est pas forcément la sienne qui est au premier plan. C'est le héros du film, il s'appelle Sean. On l'avait vu dans un film de Benoît Jacquot, Au fond des bois. Son nom m'échappe, mais on va vite apprendre à le prononcer. Il s'appelle Sean dans le film, il est formidable.
Merci beaucoup, merci Juliette. Merci. Binoche pour Un beau soleil intérieur de Claire Denis qui sortira le 27 septembre prochain. Merci Thomas Borez, merci à toutes les équipes présentes ici à Cannes. Toutes les infos sur notre site.
Bien sûr, franceinter.fr.
Rendez-vous samedi prochain, la veille de la Palme.
Ah oui.
Générique avec Jeanne Balibar et Mathieu Amalric qui nous ont laissé leur voix avant de partir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier et Raphaël Grib-Marquis se sont occupés de la préparation.
C'est une émission réalisée par David Jacubo-Riez.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Mathieu Amalric, j'y étais.
Et moi, Jeanne Balibar aussi.